phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Ça marche, toi?
Ça
y est, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Alors, c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on vous parle de...
On va commencer par vous rappeler, vous expliquer, selon à quel point vous êtes familière du Canu Info, que sur Canu, chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, à 19h, c'est le Canu Info. Chaque jour de la semaine est confié à une équipe différente et toutes les équipes sont à peu près complètement indépendantes les unes des autres. Et donc nous, le Canu Info du mercredi, ça fait 2 semaines que courageusement, on a soigneusement évité de parler de gilets jaunes. On a évité parce que on s'est quand même un peu engueulé entre nous et puis on s'est engueulé avec d'autres potes autour de nous aussi. Et finalement, on s'est quand même pas tant engueulé que ça, vu que chacune d'entre nous, on serait capable de s'engueuler tout seul tellement on n'arrive pas à avoir une position tranchée sur toutes ces affaires. J'imagine que vous qui nous écoutez, vous avez dû vivre un peu le même genre de choses depuis 2 ou 3 semaines. Faire le compte de ce qu'on aime bien dans cette histoire, de ce qu'on n'aime pas, de tout ce qu'on ne comprend pas dans ce... mouvement social, appelons-le mouvement social. Admirer certains aspects de méthode, regretter une partie de ce qu'on essaye d'arriver plus ou moins à comprendre du fond des exigences, des revendications. Est-ce que le mot revendication est bon aussi ? Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus parler de grand-chose d'autre, en tout cas pour l'actualité française, sans que ce truc-là soit d'une manière ou d'une autre dans le décor. Tout le reste de ce qui se passe de toute façon différemment à cause de l'existence de ces gilets jaunes. Alors voilà, on va parler de tout ce reste, des autres mouvements qui se réveillent à cette occasion, les lycéens par-ci, les routiers par-là. On va aussi parler de violences policières, des flics qui tuent, encore une fois, cette fois-ci une vieille dame, et des flics qui mutilent, qui matraquent, qui abîment des gens. On va pas trop parler des réponses institutionnelles, des réactions du gouvernement, des tentatives de tous les autres partis, tous ceux qui sont pas au gouvernement, de récupérer le mouvement, tous les Wauquiez, les Mélenchon, les socialos, les anciens socialos, les Ruffin le démago, les Le Pen, tous ces gens qui voudraient trop que les gilets jaunes soient leur troupe de combat, mais qui flippent sans doute aussi que finalement plus personne n'en ait rien à foutre de leur gueule. Alors, on a de la chance, nous, aujourd'hui, dans nos doutes, puisqu'il ne s'est rien passé de notable du côté du mouvement des Gilets jaunes dans les dernières 24 heures. On va sauter sur l'occasion pour éviter d'en parler directement. Encore une fois, de toute façon, vous pouvez lire ou écouter La Concurrence. Vous pouvez aussi aller faire des tours sur les ronds-points directement. Vous pouvez téléphoner à votre pote. Nous, le Canu Info du mercredi, on n'a rien de plus malin ou de plus informé à dire que n'importe qui.
Et du coup, même si ce mouvement est quand même bien différent de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, en tout cas, ce qui est à peu près sûr et évident, c'est que même au niveau de la répression, c'est une répression complètement dingue qui s'abat sur les manifestants et manifestantes en ce moment. Donc ça, on va quand même en parler.
Et du coup, manifestants, manifestantes, qu'il s'agisse de gilets jaunes ou qu'il s'agisse de gens qui se revendiquent pas ou pas directement ou pas complètement gilets jaunes, en tout cas, qui sont là d'abord avec une autre étiquette.
C'est ça. En tout cas, dans toute cette espèce de complexité, en tout cas, les flics, ils vont je sais pas comment on dit là, en tout cas ils y vont quoi. Samedi 1er décembre, je vais vous donner les chiffres officiels. 1200 tirs de flashball, 10 000 grenades, 8 000 grenades lacrymogènes, plus de 1000 grenades de désencerclement et surtout 339 grenades Gli F4. Vous vous souvenez peut-être, vous en avez sûrement entendu parler, ces grenades Gli F4, en France on est le seul pays en Europe à les utiliser, les autres les interdisent de leur utilisation en maintien de l'ordre, elles sont réservées à l'armée. C'est une arme de guerre, la seule utilité de cette grenade, elle n'a pas pour vocation de désencercler. Déjà, la grenade de désencerclement fait des dégâts énormes. La grenade Gli F4 explose simplement. C'est juste une grenade explosive. Alors, certes, c'est pas une grenade qu'on va utiliser en zone de guerre, peut-être, parce qu'elle serait pas très efficace. Mais voilà, elle a, je crois, 25 grammes d'explosifs. Il y a une vidéo, par exemple, qui tourne sur Internet où on voit des gens mettre. Ils voient les flics jeter cette grenade au sol. Ils mettent un bout de tôle dessus pour je pense, absorber le truc. Et en tout cas, on voit la tôle. Qui est posé sur la grenade, monté à je crois, au deuxième ou troisième étage d'un immeuble. Enfin, vous voyez, au niveau. Peut-être c'est deuxième. Troisième, ce serait exagéré, mais au moins deuxième étage. Donc voilà, vous imaginez ce qui se passe quand on se la prend quelque part, ou si une personne peut renseigner, ou dans le truc, confond et la prend pour la renvoyer à l'expéditeur et se la prend dans la main. C'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes. Pas moins de 240 blessés. Une personne s'est retrouvée avec la main arrachée. Deux personnes, pardon, se sont retrouvées avec la main arrachée. Niveau couverture médiatique, quand même, en ce qui concerne les violences policières, alors, on ne peut pas dire que les médias ne parlent pas de ces manifs et de ce mouvement. Niveau violences policières, on peut dire que c'est quasiment le néant. On préfère quand même largement compter et chiffrer les dégâts pour les commerçants. Bon, les seules fois où on en entend parler un peu ces jours-ci, c'est dans les rubriques, vous voyez ces nouvelles rubriques qu'il y a dans les journaux comme Le Monde ou Libération, qui s'appellent un peu Décodeur, Check News ou tout ça, là, c'est un peu la police du fake news là, sur les médias. Ils sont là, ils décortiquent, c'est eux qui vont dire si cette information est vraie ou pas. Parfois c'est utile, parfois nous on s'en sert, parfois c'est aussi de la merde. En tout cas, entre parenthèses, ça fait un peu un placement un peu d'autorité sur des médias comme ça, c'est toujours un peu bizarre. En tout cas, voilà, ils analysent comme ça, ils reçoivent des vidéos, ils analysent, ils se disent « Ah, est-ce que ces vidéos sont bien vraies ?» Notamment deux en particulier, là, qui sont particulièrement édifiantes, flippantes, enfin, voilà. Bref, ils les ont classées de véridiques, c'est comme si un peu il y avait besoin de vérifier si la police française était capable de se déchaîner à 4, 5 ou 6 flics sur un manifestant à terre pendant presque une minute, et je vous jure que si vous regardez la vidéo, une minute, c'est vraiment, vraiment très long. Qui, pour finir, bon, en fait, le laisse partir. Parce qu'en fait, réellement, ils n'avaient pas forcément envie de l'arrêter. Enfin, c'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment de lui éclater la gueule. Ou encore une scène où des gilets jaunes se sont réfugiés dans un Burger King. Et en fait, là, en gros, c'était parce que juste l'air était complètement irrespirable. Parce qu'on le répète, hein, quand même, 8000 grenades lacrymogènes. Voilà, ça rendait à peu près l'atmosphère parisienne irrespirable. Et voilà, du coup, un groupe de gens se retrouve dans ce Burger King. En fait, voilà, les flics arrivent pour évacuer ça. Le gérant, lui, par ailleurs, des gens disent plutôt qu'il était un peu genre affilé un peu de l'eau, je pense qu'il était pas très content que les gens rentrent dans son magasin qui était fermé, mais voilà, il était face à des gens qui étaient un peu en souffrance, il leur a filé un coup de main. Les flics rentrent, délogent tout le monde, et en fait, le passage obligatoire pour sortir du Burger King, c'était de passer une haie de flics et de se faire matraquer et frapper. C'est aussi dans ce Burger King où il y a une des dernières personnes qui s'est fait mettre à terre et où 4, 5, 6 flics se sont déchaînés sur lui. Voilà, il y a eu une main arrachée à Paris, une main arrachée à Tours et de nombreuses personnes qui se sont retrouvées avec des tirs de flashball en pleine tête. On rappelle, comme toujours je me souviens, normalement les flashballs doivent être tirés à une certaine distance et au niveau de la partie ventrale du corps. Donc voilà, c'est.
Mais toute personne qui est déjà allée à des manifestations où ça a claqué un petit peu voit bien que ce soit les flashballs ou les grenades qui sont censées être tirées en cloche sont quand même très très régulièrement, mais je dirais bien très majoritairement tirées en tir tendu dans la tête, dans le thorax, en tout cas vers les manifestants directement.
C'est ça. Sur vous pouvez. Enfin, je sais pas si ça vous coûte, mais en tout cas le site lundi matin a répertorié un peu toutes les violences qu'il y a eu. Au cours de ces dernières manifestations.
Et dans les violences en question, il y en a une. Alors écoutez-moi, au départ, je ne m'étais pas dit que j'allais en parler aujourd'hui, vu qu'il s'agit d'une histoire qui est arrivée samedi soir, que la fin de l'histoire, c'est dimanche. Mais en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que plusieurs personnes à qui j'ai mentionné le machin n'était pas au courant de la mort d'une dame, d'une vieille dame, d'une octogénaire, une dame de 80 ans, à Marseille, samedi, tuée par... Alors, tuée par quoi ? Ça va être un petit peu le sujet de ce que je vais raconter, parce qu'en gros, il y a quand même une grenade lacrymogène, a priori, qui lui a explosé à la gueule alors qu'elle était à sa fenêtre le samedi. Elle est morte le dimanche. Alors la question de savoir comment et pourquoi il a été tué, vous allez voir, nous réserve quelques surprises. Puisque cette dame, Zaineb Redouane, alors voilà, elle était chez elle dimanche, elle habitait à côté de la Canebière. Bon, sur la Canebière, elle était chez elle samedi, pardon, le gros bordel, on sait que Marseille est une des villes où ça a énormément pété samedi. Des heurts qui opposent les forces de l'ordre à des manifestants qui remontent la Canebière. Donc les manifestants, là, il y a des gilets jaunes. Qui répondent à l'appel national. Il y a aussi la CGT et il y a aussi le collectif 5 novembre. 5 novembre, on sait, c'est le jour où il y a deux immeubles qui se sont écroulés à Marseille. Et s'il y a aussi le collectif 5 novembre, ça veut dire qu'il y a aussi les gens qui sont en lutte dans le quartier de la Plaine. Donc voilà, grosse manif, convergence de plusieurs cortèges. Les cortèges arrivent vers la mairie et là, les flics décident de les dégager et ils commencent par des tirs de lacrymo. Après, ils courent après les gens. Certains groupes violents, comme nous dit l'article de Libé que j'ai sous les yeux. Mais alors, bien sûr, on parle de groupes violents. N'empêche que la seule personne qui est morte ce jour-là, ce n'est pas des manifestants qui l'ont tué. Ça, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ce n'est pas des manifestants qui l'ont tué. Bon voilà, aux alentours de 18h, les affrontements éclatent près de la rue des Feuillants. D'après les voisins de la victime, celle-ci leur aurait raconté qu'elle avait voulu fermer ses volets pour se protéger. Et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu des éclats dans la figure. On a retrouvé chez elle des plots de grenades, des petits morceaux de grenades, a confirmé lundi le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu. On va le revoir celui-là. Qui précise qu'à ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès. Bah oui, cette dame qui par ailleurs allait relativement bien, en tout cas était capable de fermer ses volets, elle ouvre sa fenêtre, elle se prend une grenade lacrymo qui lui explose à la gueule, elle meurt le lendemain, mais on ne peut pas directement établir de lien quand même, n'exagérons rien. Une enquête a été ouverte, des policiers ont déjà été entendus, et alors Libé a parlé avec une de ses voisines. Qui explique qu'elle a été la première à aller dans l'appartement de Madame Redouane et qui dit quand je suis arrivé, elle sortait de la salle de bain, une serviette en sang sur la mâchoire, elle criait « ils m'ont visé », l'appartement était rempli d'une fumée noire. Elle m'a raconté que deux policiers en tenue se trouvaient sur le trottoir d'en face de la Canebière et lui ont tiré dessus. Alors, Bon, c'est ce qu'elle a raconté. Nous, on n'a pas d'autres témoignages que ça. En tout cas, cette dame a vu des flics et a eu l'impression que ces flics la visaient directement. Les commerces voisins ont eux aussi subi de plein fouet le jet des lacrymos. C'est pour dire que c'est un quartier où ça a de toute façon pas mal pété. Les gens s'étouffaient, on les a fait rentrer dans le restaurant pour fermer les portes, raconte Nadia, qui travaille au snack au pied de l'immeuble. Les CRS étaient postés sur le trottoir d'en face. Ils tiraient droit sur nous alors que les manifestants étaient un peu plus haut. Mais alors, voilà, là, le secrétaire régional du syndicat de policiers Alliance dit « Oh bah non, quand même, ça c'est pas vrai, on n'a jamais tiré droit sur des manifestants. Si vous tirez dans le tas, ça s'appelle du tir tendu, et c'est interdit », explique-t-il.
Et la police
ne fait pas les choses interdites, puisqu'elle est justement là pour fixer ce qui est interdit et pas interdit. Les policiers visaient bien les manifestants, mais avec un tir courbe. Donc c'est ça, c'est quand vous tirez vers le ciel pour que le projectile retombe par la seule force de la gravité universelle vers les manifestants. À ce stade, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, dit toujours ce syndicaliste de Alliance. C'est un drame, c'est la première fois que j'entends un tel concours de circonstances. Tu parles d'un concours de circonstances. Mais en tout cas, il devrait y avoir, c'est ce que devrait, nous dit l'article de Libé, déterminer une enquête de l'IGPN qui a été ouverte. Alors pareil, on a énormément de confiance dans l'IGPN pour, si jamais il y a une faute de la part des flics, le dire, les dénoncer, les amener devant les tribunaux et vraisemblablement que les flics passent du temps en prison. On a énormément de confiance, même si ça serait bien la première fois que ça arriverait. Donc la vieille dame a été blessée, les gens l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a été opérée, mais elle est décédée dimanche soir d'un choc opératoire, d'après le procureur de la République, donc ce Xavier Tarabeux. L'autopsie a été pratiquée lundi. Et donc, M. Tarabeux, le procureur, nous dit que l'octogénaire a été victime d'un arrêt cardiaque sur la table d'opération, ajoutant que l'autopsie avait révélé que le choc facial n'était pas la cause du décès. Donc en fait, elle n'est pas morte de la grenade, elle est morte du choc opératoire dans l'opération qui a suivi. C'est bien la preuve que ce n'est pas la faute des flics. Que ce soit l'éclat qui l'ait amené à l'hôpital, alors ça nous dit cette fois-ci à nouveau le secrétaire du syndicat de policiers Alliance, que ce soit l'éclat qui l'ait mené à l'hôpital, cela semble ne pas faire de doute. Bon, quand même, il dit bien semble. On dirait que oui, bon, peut-être que c'est à cause de la grenade qu'elle a été embarquée à l'hosto. Mais... est-ce que sa mort n'est pas due à un problème opératoire du fait de son grand âge et donc pas à la grenade ? Non mais, je veux dire, ces gens-là sont cinglés, quoi. Ben oui, les flics ont tiré une grenade sur une vieille de 80 balais qui est morte le lendemain, mais c'est sûr, les flics sont pour rien. En fait, ça doit être les chirurgiens.
Ah.
C'est les chirurgiens qui l'ont tué.
Mais je pense qu'ils doivent s'appuyer sur un paquet de chiffres qu'ils doivent avoir, parce que c'est vrai que comme ils tirent aussi à vue sur un paquet de jeunes et de lycéens, ben c'est vrai que le jeune et le lycéen peut-être a l'air de moins crever sous tir tendu, quoi.
Un peu plus résistant que l'octogénaire. Bon, décidément, en plein au moment où on dirait que même Macron regrette finalement d'avoir tellement exprimé son mépris pour les pauvres, eh ben, le procureur de Marseille et les syndicats de flics, alors eux, ils ont vraiment, vraiment aucune hésitation à nous prendre pour des cons.
Et en tout cas, c'est sûr qu'ils ont, au sens large, hein, les politiques, que ce soit au niveau du gouvernement ou plus localement, au niveau de la mairie de Lyon, par exemple. Et ben, en tout cas, ils se flippent un peu là des gilets jaunes, parce que Collomb, bon, qui au passage doit quand même être ravi d'avoir lâché sa place de ministre de l'Intérieur juste avant le début des gilets jaunes. Je pense que lui, il s'est dit, bon, alors là, si j'ai fait un coup de maître dans ma vie, c'est celui-là. Et ben, en tout cas, il est en train de sacrément flipper de sa fête des Lumières et en tout cas qu'elle soit mise en échec par la mobilisation des gilets jaunes. Alors il a assuré elle aura lieu, ne vous inquiétez pas, la fête des Lumières aura bien lieu, mais il a déclaré, et là je cite, s'il y a un moment dans l'année où l'on peut mettre entre parenthèses les difficultés que l'on peut connaître, hein, alors il a l'air derrière ça d'être complètement compréhensif, en tout cas s'il y a un seul moment, et ben je continue de citer, c'est bien pendant juste ces 4 jours s'il vous plaît, hein. Alors on le voit ramper comme ça pour demander aux gens de surtout pas pas à se mobiliser. Et là, il continue de dire celles et ceux qui viennent à la fête du lumière, bah, ce sont pas les privilégiés, hein, non, non. Bon, ça c'est vrai, mais je veux dire, quand on fait des actions, c'est pas forcément. Bref, c'est madame et monsieur tout le monde. C'est en fait, il continue, c'est, vraiment, je veux dire, je ne l'invente pas. Hein. C'est le gilet jaune en personne qui viendra avec sa famille le soir, hein, même s'il a manifesté dans l'après-midi. Alors bon, s'il vous plaît, vous pouvez ne pas venir. Enfin, si vous venez, vous pouvez peut-être ne pas mettre votre gilet jaune et ne pas foutre le bordel à la fête des Lumières.
Et on va voir comme Colomb n'est pas le seul et comme chacun dans son coin, donc Gérard Colomb pour sa ville, mais chaque ministre aussi pour son domaine, plaide pour dire non, non, mais là, bon, les autres, je dis pas, mais là quand même, là, de mon côté, non, s'il vous plaît, non, non.
Mais non, mais c'est pas du tout ça, on l'a déjà mis celui-là. Bref, toi, t'avais quoi ?
Eh ben allez, hein, par exemple, si vous voulez, je vous faire Elisabeth Borne.
Ah ouais, vas-y.
La ministre des Transports. Alors, en réalité, c'est elle qui va dire à nouveau non, non, mais là, non. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la CGT et FO appellent à la grève du transport routier à partir de dimanche soir.
Et ça, quand même, en général, le gouvernement, ce qu'il veut pas quand il y a un mouvement social, c'est que les routiers se mettent dedans.
Ouais. Bah ça, c'est clair. Donc, les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont appelé à la grève à partir du dimanche soir 22h et pour une durée indéterminée afin de défendre le pouvoir d'achat. Alors, visiblement, ils ont trouvé que les mesures annoncées hier par Édouard Philippe n'étaient pas à la hauteur, donc les mesures en réponse aux gilets jaunes. Et les deux syndicats, comme d'ailleurs beaucoup de globalement ce qui a été recueilli comme réaction du côté des gilets jaunes, parlent de miettes, pour résumer le discours du Premier ministre. Mais eux, en plus, ils sont vénères à cause d'une histoire de décision du Conseil d'État qui a annulé un décret qui date de 2016... Décret qui fixait des majorations de 25 à 50% aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers. La décision du Conseil d'État, qui ramène à 10% les majorations des heures supplémentaires des routiers, leur ferait perdre, pense-t-il, entre 300 et 1200 euros par mois. Nous sommes persuadés que depuis la décision du Conseil d'État, le verrou des heures supplémentaires majorées a sauté pour le transport routier de marchandises, ajoute-t-il. En gros, les patrons... si c'est juste 10% de plus sur les salaires, ils n'ont aucune raison de se gêner pour leur faire faire des tonnes d'heures sup quasi gratos. Et alors là, le ministère des Transports, Elisabeth Borne, a immédiatement réagi. Les deux organisations syndicales concernées prennent un mauvais prétexte pour lancer un appel à la grève, à une grève qui n'a aucune raison d'être. Eh bien oui, parce que bien sûr, encore une fois, c'est le gouvernement qui veut décider quelles grèves ont des raisons d'être et quelles grèves n'ont pas de raison d'être. Donc, alors bien sûr, on se dit que même si c'était vrai, en vrai, une profession qui se mettrait en grève pour le pur plaisir, ça serait quand même peut-être une sorte d'indice de quelque chose. Mais le gouvernement, non, le ministre des Transports, non, il dit non, mais là, non, pas ça, s'il vous plaît, non, pas vous. En début de semaine, le ministère, alors avant qu'ils déclarent qu'ils allaient se mettre en grève, mais suite à la décision du Conseil d'État, le ministère avait affirmé à l'AFP que cette décision, qui date du 28 novembre et donc qui annule le décret de 2016, que cette décision n'aura aucune conséquence et ne change rien en pratique. Elle était attendue pour des raisons purement juridiques et elle avait été parfaitement anticipée par le gouvernement, selon le ministère. Alors en gros, il y avait un texte qui disait que les heures sup, c'était plus 25% à plus 50% sur les salaires. Maintenant, il y a un nouveau texte qui dit que c'est juste plus 10%, mais bon, ça ne change rien du tout. Hein. Voilà, ça ne change rien. Pourquoi ? Eh ben, parce que c'est l'accord de branche qui décidera, paraît-il. Et oui, alors d'après une loi qui, bon, de toute façon d'ailleurs, n'est même pas encore votée, mais cette loi devrait finir par dire que c'est l'accord de branche qui décidera. Et l'accord de branche, en toute logique, décidera dans le cadre de la loi, quoi. C'est-à-dire que avant, l'accord de branche pouvait aller jusqu'à 50%. Bon, il pouvait dire 5%, 10%, ou il pouvait dire 50%. Maintenant, avec la décision du Conseil d'État, il peut dire 5%, il peut dire 10%, mais il ne peut pas dire 12% ou 50%. Ça ne change rien. Enfin, bon, ça change presque rien. Alors, avant de terminer là-dessus, on va quand même préciser que la CFDT Route, qui est le premier syndicat des transports routiers et de la logistique avant même la CGT, la CFDT, donc, a décidé de ne pas appeler ses adhérents à rejoindre le mouvement, tout en demandant au gouvernement, en demandant poliment au gouvernement de rétablir un dialogue social normalisé, c'est-à-dire
d'arrêter de tout péter quoi. Non,
le gouvernement ne pète pas tout. La CFDT demande au gouvernement de bien vouloir les inviter à manger des petits fours avant de prendre leur sale décision.
Qu'est-ce qu'il avait ?
Oh, c'est un homme qui était pas bien. Il faisait du pressentiment.
Mais depuis quand c'est une maladie, le pressentiment ?
Ma pauvre, c'est comme tout, ça dépend combien vous en avez.
Eh oui, on pressent, et puis un beau jour, on claque.
En tout cas, dans la nuit d'hier, il nous en a fait un si gros que je me suis dit, c'est pas possible, faut que j'aille chercher le docteur. Mais quand on est arrivé, c'était trop tard, ça l'avait étouffé.
Voilà, bon, on nous a informé que les auditeurs et auditrices de Radio Canus étaient très largement rajeunis puisque des enfants de 2 ans et demi et de 4 ans et demi nous écoutent. Bonjour à eux et à elles. Eh bien, en tout cas, les lycéens et les lycéennes se bougent pour que les plus jeunes générations ne soient pas dans la merde. Et en tout cas, encore un ministre qui flippe et c'est Blanquer qui flippe sa race. Qui se dit non, sur les lycéens et les lycéennes, non, ce serait gentil que non, parce que c'est vrai quand même, comme ils ont quand même une bonne dose d'imprévisibilité, mais là, s'ils emboîtent le pas avec les gilets jaunes, le gouvernement n'en a pas fini avec les lycéens et les lycéennes, parce que eux, quand même, on peut le dire, a priori, hein, le prix du carburant, ils en ont vraiment, vraiment rien à foutre. Du coup, Blanquer est monté au créneau sur Europe 1 et comme son truc à lui, bah, c'est de se la jouer un peu bon père de famille autoritaire des années 50. Ça se ressent d'ailleurs dans les programmes des enseignants. Il a ressorti les mêmes discours à chaque fois. Bon, c'est-à-dire les mêmes discours qui datent depuis les années 50, voire plus. Avant, j'étais pas né, même pendant les années 50, entre parenthèses. Bref, alors là, à chaque mouvement lycéen et lycéenne, il y a des petites variantes quand c'est les étudiants, mais là c'est vraiment le temps presse sur eux. Alors la phase 1 c'est, je cite, on ne peut pas parler du mouvement, il y a seulement 200 lycées de bloqués, soit c'est ridicule, hein, ça fait seulement 5%. Phase 2 dans le discours, hein, la peur de l'extérieur, les personnes qui le bloquent sont extérieures au lycée.
Hein, voilà, ça nous la ferons à tous les coups.
Phase 3, attention, on continue avec la peur, mais on en appelle à l'autorité parentale. Attention, parents, s'il y a de graves problèmes de sécurité. Il oublie quand même de préciser que les graves problèmes de sécurité sont quand même du côté de la police. Phase 4, ce mouvement n'a... Alors, attention, éviter et essayer de déminer. Alors, on ne sait pas comment cette phrase pourrait devenir magique, que des convergences de lutte arrivent. Et là, c'est dit, ce mouvement n'a rien à voir, mais n'a absolument rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Surtout, ne vous mettez pas ensemble. Moi, il ne l'a pas dit, mais oui, il le pensait tellement fort que ça nous a percé les tympans. Et alors là, petite, quand même, petite inédit, je sais pas si ça se dit, bref, on s'en fout. Là, c'est plutôt une nouvelle. Pardon, là, il dit, je cite, il faut que la population se responsabilise. Bon, là, on sent plutôt l'appel au secours de dire non, là c'est pas possible. Je veux dire, là moi, faut arrêter les conneries. Je veux dire, si déjà les gilets jaunes, on comprend rien, je veux dire, personne ne comprend rien. On ne l'avait pas vu venir, mais alors si les lycéens et lycéennes s'y mettent, après on sait que ça risque d'être autour des étudiants et étudiantes. D'ailleurs, ils ont un peu commencé. Là, c'est pas possible. Bon, alors ça, c'est pour ce qui est du discours des cols blancs, de ceux qui sont loin et dans d'autres strates. Sur le terrain et au niveau de leurs sous-fifres, c'est quand même moins fun. Clairement, le gouvernement a décidé de frapper fort, et là, on parle au sens propre sur les lycéens. C'est complètement l'alu. Les flics débarquent sur les blocages et gaz, tirent les grenades en tir tendu et dégomment des mômes de 16 piges à coups de flashball. Donc c'est-à-dire que là, on parle même pas de... Enfin aussi, mais principalement pas de gens qui sont partis en manif sauvage. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire, et quand bien même, effectivement, on s'en fout, c'est même pas le problème. Mais je veux dire, là, quand même, on parle juste de blocage de lycée. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Et qui pour tout un tas de prétextes, mais je veux dire, c'est même pas le problème, ils sont dit allez, on va bloquer notre lycée. C'est à dire que par des moyens plus ou moins, ça peut être foutre des grilles devant son lycée, ça peut être enchaîner les portes, ça peut être au pire brûler des poubelles, au pire du pire péter une ou deux vitres qu'il y a à l'entrée. Voilà, et en fait, ça justifie aux yeux des médias. Enfin, vraiment, quand vous lisez le truc des médias, il y a aucun. Enfin, on imagine, mais il n'y a vraiment aucun média qui dit. En fait, juste, ça craint les entrées des lycées, là, qui sont bloquées, se retrouvent dans des nuages de gaz lacrymogène. Mais pas possible. On a l'impression. Enfin, si on compare à des images de samedi dernier à Paris, c'est à peu près le même niveau d'intensité de gaz. Enfin, c'est vraiment juste la folie. Alors vraiment, si là il n'y a aucune réaction de la part des enseignants et enseignantes à l'intérieur des bahuts concernés pour aller quand même à minima gueuler sur les flics qui dégomment des gamins devant leur lycée, c'est-à-dire quand même leurs élèves, ceux à qui ils sont censés un peu... Enfin voilà, vraiment on a quand même vraiment un gros problème s'il n'y a aucune réaction de ce côté, parce que vraiment les gamins ils se font dégommer juste au pied des bahuts. Je veux dire, si vraiment les proviseurs et les équipes enseignantes ne font rien, c'est quand même vraiment, vraiment... Voilà quoi. Sinon, du côté, on va faire un peu plus réjouissant, du côté de leurs actions. Bon, bah, en gros, comment ça se passe, hein, pour qui c'est un peu loin ou qui est tombé sur les mauvaises années de lycée, qui a raté des blocages. En gros, bah voilà, certains lycées bloquent. Alors, à Lyon et la région lyonnaise, ça va à Vaux-en-Velin, Bron, il y a le lycée. Je sais plus, dans le 8ème, bref, j'ai pas les noms. En tout cas, voilà, ils bloquent un peu, ils essayent de motiver leurs camarades, machin. Après, ils font le tour un peu des lycées alentours pour aller motiver leurs potes pour sortir des cours et aller se balader dans la rue. Là où hier les flics s'en tenaient à peu près au point de blocage, il semble qu'aujourd'hui ils sont allés un peu plus harceler les manifestants et manifestantes dans la rue. Avec bien évidemment deux plus grosses pressions mises sur les villes de banlieue comme à Vaux-en-Velin où on dénombre un nombre de tirs tendus complètement hallucinant. Dans les cas et malgré la répression, le mouvement semble bien parti pour durer. En tout cas, dans ce studio, on l'espère fortement. En tout cas, ils ont tous l'air bien à fond. Alors, bon, d'un côté des revendications, parce que bon, les lycéens et lycéennes, contrairement aux gilets jaunes, on ne comprend rien, et ben eux, ils ont un truc qui s'appelle l'UNL, c'est l'Union Nationale des Lycéens et Lycéennes. Et voilà, au moins, ils posent des revendications claires, c'est plus simple pour nous, hein, ça nous facilite le travail, c'est plus gentil, ça repose un peu nos cerveaux.
Potentiellement, ça pourrait être plus simple pour le gouvernement s'il voulait juste dire oui à tout, et puis comme ça, il est...
Ouais, et ben c'est pas sûr. Hein. Enfin, en tout cas, ouais, je pense qu'il va falloir encore quelques mois de lutte. Hein. En tout cas, je cite leur communiqué. Nous ne voulons plus d'une sélection à l'entrée de l'université mise en place à l'aide des attendus et des algorithmes de Parcoursup qui discriminent selon les lycées d'où l'on vient. De la réforme du baccalauréat à la carte selon les lycées qui ne pourront pas tous s'offrir les mêmes enseignements et qui de fait accroît les inégalités entre les établissements.
C'est ça, parce que du coup, d'un lycée à l'autre, avec toutes les histoires d'options pour le bac, ça ne devrait pas être les mêmes options et du coup, il devrait y avoir d'autant plus des lycées dont on pourrait sortir avec un CV disant qu'on sort de ce lycée. Donc, on vaut quelque chose ou qu'on sort de ce lycée, donc on a une grosse merde.
Et ça, et en gros, avec ces trucs de Parcoursup, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont peut-être bientôt faire un diplôme parental pour comprendre comment se passe Parcoursup. Et en gros, comme en vrai, ils font pas de parcours de diplôme parentaux là-dessus, c'est juste que, encore plus qu'avant, enfin avec ce truc-là, encore plus qu'avant, bah, les gens qui s'en sortent le mieux, c'est les gens qui connaissent les ficelles de ce truc-là. De fait, les gens qui connaissent les ficelles, c'est alors il y a ceux qui travaillent dans l'enseignement, bah de fait ils sont en première ligne, ils ont tous les trucs, tous les outils en main pour que leur gamin puisse s'en sortir au mieux. Et
les gens qui ont du capital social, culturel, voilà. Financier.
Bon, c'est juste comment marche la société, mais sauf que bah là quand même on parle de l'avenir de l'école et de gamins, et si ce truc-là il l'accentue encore plus, ça va après de changer. On imagine bien que leur but c'est pas que ça change, mais voilà, en tout cas eux ils le demandent. Ils refusent également la réforme de la voie professionnelle qui privilégie les intérêts privés de l'entrepreneuriat plutôt que les intérêts des lycéens et lycéennes, qui offrira des formations différenciées d'une région à une autre. C'est à dire que là les boîtes privées pourront dire ah ouais bah nous c'est vrai que là en ce moment on manque vraiment de main d'œuvre, alors globalement à organiser en organisation patronale un peu, ils pourront aller voir les régions et dire bah nous franchement si vous formez plein de gamins là-dessus franchement ça nous arrangera bien. Du coup là tout le monde se dira ah c'est chouette, en plus ça fait qu'on va former des gamins et puis après les gens ils seront contents, ils auront du travail derrière, sauf qu'en fait juste les patrons ils vont pas dire s'ils ont besoin pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, enfin bref. Voilà, ils veulent plus de la du service ils veulent pas du service national universel. qui veut éduquer à la place de personnes, comme ils disent, à qui on enlève les moyens, qui sera obligatoire et surtout non rémunéré, contrairement au service civique. Alors le service national universel, hein, c'est l'espèce de gros projet de Blanquer, hein, qui, donc on le rappelle, est bloqué aux années 50. Lui, son truc, c'est de vouloir recréer une union. En fait, il est triste parce qu'il n'y a plus de service militaire, ça craint.
C'est ça, tous les discours sur « Ah, avant le service militaire, c'était quand même là que se rencontraient les classes sociales, c'était là que se forgeait un esprit collectif au niveau de la nation. »
C'est ça, et en gros, puis on dit Blanquer, mais c'est quand même vraiment, si Macron il l'a mis là, c'est que vraiment Macron il est quand même dans un trip de l'armée et de l'autorité un peu flippante. Et en gros, alors voilà, ce truc là, c'est de dire, c'est de dire un peu, ça va brasser les gens entre eux. Hein, ça va pas brasser les gens entre eux. En tout cas, grosso modo, les gens qui avaient eu l'expérience du service militaire disent à peu près tous que c'était de la merde. Peut-être qu'il y en a qui sont amusés un peu à tirer avec des pistolets, qu'ils ont un peu rigolé.
Là, ça serait quand même un service pas militaire.
Militaire.
On sait pas exactement ce qu'il ferait, parce que pour l'instant, c'est quand même un peu flou. On sait juste qu'il faudrait que ça dure un mois obligatoire, dont 15 jours où il dormirait sur place. Alors, sur quelle place, comment, pourquoi, personne n'en sait rien. L'idée, c'est juste de faire un truc obligatoire pour tout le monde, pour apprendre un peu plus à obéir que ce qu'on le fait à l'école, je crois.
C'est ça. Par exemple, en fait, dans les propositions, du coup, il y aurait 15 jours un peu... Ça durerait un mois obligatoire. Dans ces un mois, il y aurait 15 jours d'internat obligatoire. Que les gens qui encadreraient... Effectivement, on ne sait pas trop, parce qu'après, il y aurait une partie volontariat. Alors peut-être que ce serait des gens qui auront bien voulu faire après les 6 mois volontaires, qui pourront encadrer les 15 jours en internat. Bon, on ne sait pas. Avec ces gens-là, ils seraient formés. On ne sait pas trop par qui. Peut-être par les enseignants, mais aussi un peu peut-être par l'armée. Parce que bon, finalement, l'armée revient un peu dans la place sur cette histoire-là. Voilà, c'est flou. En tout cas, eux, ils disent en vrai, non, mais en
c'est
fait...
C'est flou, mais ça fait une sorte de un mois de la vie des jeunes qui seraient juste chopés comme ça et qu'on leur ferait faire un truc obligatoire sans leur demander leur avis.
C'est ça. Et sans que... Ouais, je sais pas, un peu, ouais, c'est ça. Sans que ni les élèves, ni les parents aient trop leur mot à dire. Enfin, bref. Donc, ils réclament, du coup, l'abandon
SNU,
Service National Universel. Et ils ont une proposition, moi, je trouve pas mal, c'est l'investissement des 3 milliards prévus pour ce SNU dans l'éducation, de refoutre cette une-là. Vu qu'il y a du pognon pour faire des conneries, on pourrait essayer d'en faire des trucs un peu moins pires. L'ouverture d'un débat démocratique pour prendre en compte la volonté des lycéennes sur les améliorations à apporter dans notre système éducatif. Là on voit quand même que l'UNL c'est quand même un peu un truc sérieux. Par exemple, ils n'ont pas les revendications de l'abolition du bac, de filer le bac à tout le monde. Ouais, j'imagine que dans des AG de lycéennes, il doit y avoir ça. Si vous avez ça, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Envoyez-nous
des
mails.
Parce que c'est vrai que l'UNL, des fois, on peut être d'accord avec eux, mais quand même. Ils sont parfois un petit peu lassants de volonté de crédibilité.
C'est ça. Et voilà. Du côté de la justice, par contre, en gros, je sais si j'en ai oublié. Non, du côté de la justice, là on est sorti du communiqué. Il y a 3 lycéens qui ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de TIG. Ça s'est passé des arrestations qui ont eu lieu lundi ou mardi, je crois. En fait, ils sont passés en, je sais plus comment ça s'appelle, bref, un truc, c'est pas la comparution immédiate, c'est un autre truc, bref, c'est encore plus expéditif. En fait, comme ils avaient pas de casier et qu'ils ont dû reconnaître les faits, c'est une reconnaissance de culpabilité. Bon, on sait pas, on s'en fout. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ils avaient pas de casier judiciaire. Maintenant, c'est chose faite. Voilà, que la justice finit un peu le travail de la police.
Quelle sorte d'oiseau êtes-vous?
Je suis un moineau, elle c'est une colombe.
Non, j'ai dit. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous?
Je suis un corbeau.
Et alors, qui est-ce qui appelle encore à se mettre en grève, figurez-vous? Eh bien, cette fois-ci, c'est un syndicat de flics. Alors, le syndicat de flics Vigie Ministère de l'Intérieur, a déposé un préavis de grève illimité à partir du samedi 8 décembre. Le syndicat de policiers et de personnel administratif, c'est important, vous allez voir, Vigie Ministère de l'Intérieur, se rallie aux Gilets jaunes. Le syndicat a déposé aujourd'hui un préavis de grève illimité à partir de samedi pour les personnels administratifs, techniques, scientifiques, ouvriers d'État et cuisiniers de la police nationale. C'est, et donc à partir de samedi, c'est-à-dire le jour de la prochaine grosse manif de Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Les revendications portées par les Gilets jaunes nous concernent tous. Il est temps de s'organiser légalement pour être solidaires avec eux, pour l'avantage de tous. Nous sommes concernés car nous faisons partie du peuple. Notre préoccupation est de boucler la fin de mois et non de changer les moquettes de l'Élysée pour 300 000 euros. » Autant dire, ils sont complètement dans le ton Gilets jaunes. Alors ils expliquent que le personnel actif n'a pas le droit de grève. Nous rusons en appelant à la grève les fonctions de support qui, eux, ont le droit de grève. C'est-à-dire que les flics de terrain, ceux qui vont aller directement taper sur les manifestants, ceux-là, ils n'ont pas le droit de grève. Par contre, tous les administratifs, techniques, scientifiques, ouvriers d'État et cuisiniers, eux, ils ont le droit de grève. Et donc, et ben voilà. Et alors, ils expliquent, il y a un vrai ras-le-bol chez les policiers. Ils sont majoritairement solidaires du mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qu'explique le syndicaliste. Bim ! Alors, on se demandait au début de ce canut d'info comment considérer ce mouvement. Ce qu'on vient d'entendre, c'est certainement, alors pas du tout un argument définitif, c'est quand même un petit peu à prendre en compte. Et donc, à comprendre que les flics, bon, ben, ils n'aiment pas en vrai taper les Gilets jaunes. Alors, bon, les lycéens, ils aiment les taper. Ça, on est clair. À chaque fois qu'ils ont du bronzé en face d'eux, bon, ça, ils aiment bien, c'est normal. Quand ils ont du syndicaliste, allez, bim, bim, bim. Mais les gilets jaunes, non. Les gilets jaunes, quand même, les flics, ils les tapent avec... alors, ils les tapent fort, hein, parce qu'ils sont payés pour, et puis de toute façon, ils sont entraînés par l'habitude.
On leur a même fait une prime pour ça.
Oui, tout à fait. Mais quand même, ça les rend un petit peu tristes.
C'est curieux comme parfois on aimerait que la terre s'ouvre sous vos pieds et vous avale tout entier.
Et puis voilà, c'est cette fois-ci, ce dernier truc que je vais raconter aujourd'hui, a priori rien à voir avec les gilets jaunes, même si encore une fois ça fait une ambiance de fond dont on ne sait pas comment elle peut jouer. Toujours est-il que... le collège lyonnais Gilbert Dru, c'est dans le 3e arrondissement, est occupé à partir de ce soir, devrait être occupé à partir de ce soir, par un collectif de profs et de parents pour mettre à l'abri les familles de 5 collégiens qui dormaient dehors jusqu'à maintenant. En effet, 2 familles d'élèves scolarisés au collège Gilbert Dru sont toujours sans toit, malgré les demandes répétées d'hébergement, ça fait donc 5 élèves. Les personnels et les parents des élèves ont décidé de se bouger pour que les autorités leur trouvent un toit, un rassemblement est prévu ce soir. Alors théoriquement, il a commencé il y a un quart d'heure à 19h30 devant le collège. Les gens qui sont dans le coin et qui ont envie d'aller y jeter un œil, c'est le moment. Ce rassemblement sera suivi d'une occupation de l'établissement. Les familles seront hébergées pour la nuit, accompagnées par des personnels du bahut. Un repas et une nuit au chaud avec possibilité de toilettes sur place. Alors, bon, on sait que d'habitude, les flics sont un peu actifs pour aller pour empêcher les gens, dans ces cas-là, de rentrer dans les écoles, les collèges. Ça, c'est possible qu'ils soient vraiment, vraiment à fond de reçup, les flics, et qu'ils n'aient pas vraiment le temps de s'en occuper. Peut-être que cette histoire peut marcher plutôt pas mal. Cette action sera renouvelée, disent les parents et les personnels solidaires, sera renouvelée le jeudi 6 décembre, donc demain soir, vendredi 7 décembre, après-demain soir, et par contre pas le week-end, mais ça pourra reprendre lundi 10 décembre si nécessaire. Jusque-là, des courriers ont été adressés à la rectrice, au préfet, au président de la métropole, au maire de Lyon, aux élus du 3e arrondissement, sans résultat.
Oh!
Eh ouais, incroyable. La situation est inacceptable et ne peut perdurer. Au nom du devoir de solidarité, disent les membres du collectif, en demandant que soit appliquée la loi sur l'hébergement d'urgence. Donc, combien de fois on a cité cette loi à ce micro, je me demande. Le code de l'action sociale et des familles stipule que toute personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout moment à un hébergement d'urgence. C'est bien une loi qui n'a jamais été appliquée, c'est celle-là. Mais ça n'empêche pas de continuer à demander qu'elle le soit. Non, ben voilà, c'est tout. Pardon, j'allais répéter un truc que j'avais déjà dit. Pour ma part, j'ai terminé. Et toi ?
Eh bien, moi aussi. J'ai l'agenda de rébellion sous les yeux. Alors, je vais vous dire deux trucs qui me sautent aux yeux. Il y a un rassemblement vendredi 7 décembre, donc c'est vendredi qui arrive. À quelle heure ? Bah voilà, ça c'est quand j'ai pas préparé. à midi. Comment,
pourquoi alors ?
À midi. Et ben c'est contre l'augmentation des frais d'inscription et Parcoursup. Et c'est dans la cour centrale de la faculté des quais. Alors, ils n'ont pas précisé, mais moi, je peux vous le préciser à sa place. Je pense qu'il y a peu de chances que je me trompe. C'est donc dans la faculté des quais de Lyon 2. Hein. Ne vous trompez pas, parce que quand même, l'accueil ne sera pas le même, je pense. Voilà. Et c'est à quelle heure j'ai dit ? À midi, ce vendredi. Et sinon, jeudi à 19h à l'atelier des canulars qui se trouve
au 91 de Montesquieu, dans le
7e arrondissement. Et donc, il y a le bistrot de la Caisse de Solidarité qui a lieu tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois. Et autant vous dire que là, ça va être le moment d'aller lâcher du pognon, parce que quand les lycéens et lycéennes se bougent, les gilets jaunes, sûrement les facs, enfin bref, là, ça va y aller. Et du coup, il va y avoir sacrément besoin de pognon. Donc n'hésitez pas, si vous êtes, je sais pas, plein aux as, à aller vous payer une bière à 50 euros. Par exemple, le prix de la bière n'est pas à 50 euros. Je veux dire, vous ne flippez pas.
Mais vous pouvez sortir un billet de 50 euros en disant gardez-la.
Ouais, voilà, exactement. Ou même 3. Enfin bref, on s'en fout. Allez-y, c'est le moment de lâcher du pognon. Parce que quand même, quand dans la lutte, on s'enlève au moins le souci financier, ou on s'allège le souci financier, ça soulage et ça encourage.
Et puis, si jamais vous avez plutôt envie demain soir d'aller faire des tours à la Cambrousse, eh bien, du côté de Saint-Julien-Molin-Molette, un repas solidaire de la lutte contre la carrière du village, enfin un concert, mais je dis repas parce qu'il va aussi y avoir un gros paquet de pizzas faites sur place sur le moment. Donc, pizza-concert, c'est demain soir à Saint-Julien-Molin-Molette, je ne sais plus, mais à des heures de concert, et puis où à Saint-Julien ? Bah écoutez, si vous ne connaissez pas du tout quand vous arrivez à Saint-Julien, vous cherchez un endroit où il y a du bruit et des gens, ça va être assez facile.
Et bien voilà.
Enfin, pour les gens qui connaissent, c'est dans cet endroit qui s'appelle le rez-de-chaussée, en face du cinéma.
Ah. Eh bien, il est 19h47 et on a fait un Canu Info exclusivement lutte sociale. Dans notre bocal, on voit pas si il est noir. Prend notre suite. En même temps, c'est un peu tôt. En même temps, d'habitude, ils sont là. Donc, il y a des chances que vous n'ayez pas idée noire après, mais c'est possible. En tout cas, ils ont encore 10 minutes pour arriver. Donc, si vous voulez les entendre, n'éteignez pas la radio. Sinon, en attendant...
Dans tous les cas, vous allez avoir la formidable musique des bandes continues, des légendaires bandes continues de Radio Canu.
Mais juste avant, on va quand même se passer une musique de Zone Infinie qui s'appelle Les Miettes. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée.
J'espère que j'aurai confiance en toi.